C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien, et même très bien, sur Eau de Radio 91.3. Bienvenue dans Ciné-Sort, l'émission dédiée au cinéma, à tous les cinémas. Alors, nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et il est 14h pile, ou à peu près. Et oui, la pluie est de retour, les grues passent, and the winter point is north, comme on dit, outre-Manche, n'est-ce pas? Bon alors, profitons malgré tout de tout ce que nous donne la nature pour nous réconforter. Les cèpes, les girolles et les trompettes de la mort. Mal nommé. Avec moi en studio, celui qui nettoie consciencieusement ses champignons avant de les consommer, enfin j'espère, Patrick. Bonjour Patrick, comment allez-vous?
Bonjour Jean-Jacques, je vais très bien. Alors en parlant de champignons, je ne prends que des champignons hallucinogènes.
Très bien, ça ne m'étonne pas de
vous. Pas besoin de les nettoyer comme ça.
Voilà, absolument. Alors une qui n'est pas encore rentrée de sa cueillette en forêt, en espérant qu'elle ne se soit pas perdue, c'est Anne-Lise. Et oui, elle nous fait faux bond aujourd'hui pour l'épisode du jour, n'est-ce pas? Mais c'est Nicolas qui la remplace à la technique. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Oui, il est là,
il est derrière la vitre.
Bon, allez, on va l'oublier. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 5 de Ciné-Sort, nous allons retourner en 2009.
Cette année-là.
Et on ouvre l'agenda à la page du 3 janvier. Après avoir protesté contre les tirs de roquettes effectués sur son territoire, Israël intervient militairement dans la bande de Gaza. Tiens, tiens. Cette offensive cause plus d'un millier de morts, tiens, tiens, suscite de fortes réactions au sein de la communauté internationale. Il n'y a pas quelque chose de déjà vu, là?
Oui, hein? Autre chose, deux jours plus tard, oui. Le président Nicolas Sarkozy, tiens, tiens, supprime la publicité en soirée sur France Télévisions. C'est ce qu'il a fait de mieux, finalement. Enfin, de démarrer les soirées plus tôt et de donner des programmes culturels.
Ben, j'attends encore les programmes culturels.
Ben, il faut chercher.
De son côté, le commandant de bord Chesley Sullenberger sauve les 155 personnes à bord d'un Airbus A320 en posant l'avion sur le fleuve Hudson, près de Manhattan, après que l'appareil a été endommagé par une nuée d'oies blanches. Qualifié de miracle de l'Hudson, cet exploit est en fait dû aux qualités et à la maîtrise du pilote. Je vous rappelle qu'il y a un film qui s'appelle Sully qui a été fait par Spielberg avec Tom Hanks.
Tout à fait. Et enfin, fin de ce premier trimestre, le 29 mars, l'île de Mayotte devient le 101e département français suite à un référendum local avec 95,2% de votes favorables.
On attendait une victoire du oui, pas forcément un raz-de-marée à 95,2%. Mayotte, île française depuis 34 ans, devient département et s'ancre un peu plus dans la République.
Je suis contente parce que c'est pour notre, l'avenir de tous nos enfants et tout le monde. On est content ce soir, on va danser, on va sauter. Voilà, on est content.
L'évolution sera progressive avec les minima sociaux prévus en 2011 et surtout l'apparition de nouveaux impôts. Mayotte espère toucher des fonds européens et certains électeurs les réclament déjà avec détermination.
Ce qu'il nous faut, c'est des milliards et des milliards d'euros pour qu'enfin Mayotte soit développée.
Le département, modèle laïque, interdit toute nouvelle union polygame, ainsi que la justice musulmane. Les clandestins représenteraient un quart de la population. Beaucoup redoutent que le nouveau statut augmente un peu plus l'immigration illégale, devenue incontrôlable.
Nous étions en 2009.
On était en 2009, oui. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. C'est beau, hein?
Oui.
Ben, c'est pas de moi, c'est quelques vers d'Invictus, qui est un poème de William Ernest Henley.
Oui.
Illustre bien la force intérieure de Nelson Mandela. Resté en captivité pendant plus d'un quart de siècle, il n'a jamais perdu la foi ni l'espoir d'être libéré. Ah, ces geôliers ne l'ont pas épargné, hein. Et bien pourtant, il n'a jamais montré de signe d'agressivité. Ben, son combat, lui, était intérieur.
Alors oui, l'on reprochera à Clint Eastwood et son film Invictus, sorti le 11 décembre 2009, de trop jouer sur la corde sensible. On parlera d'angélisme et d'émotions faciles. Et pourtant, il y a une euphorie qui va crescendo. Et finalement, peu importe que le personnage de Mandela ne soit pas plus fouillé, il est d'abord un symbole vivant de tolérance et d'humanité. Avec un bouleversant Morgan Freeman qui incarne ce capitaine maître de son destin, ce rassembleur de tout un peuple, cet homme à la fois inébranlable, celui qui a eu l'intuition géniale, voire un peu folle, de réconcilier tous les Sud-Africains grâce au rugby.
Et oui.
Il faut se souvenir de cette séquence dans laquelle Mandela, pourtant minoritaire, retourne l'Assemblée avec un discours sur la notion arc-en-ciel. Bon, ce passage est un passage fondateur dans le film.
On est bien d'accord. Oui. Alors certes, il est question de rugby et de la victoire de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde disputée en 1995 sur son sol. Mais ce match et la conquête de la Coupe n'est qu'un prétexte pour Eastwood pour réaliser un film dont on oublie très vite les incohérences rugbystiques, tant il exalte une fois de plus ses valeurs d'humanité, de tolérance, de courage. Et la nouvelle leçon de vie d'un merveilleux rassembleur. Extrait peut-être ?
Je vous remercie d'être venu dans un délai aussi bref. Certains d'entre vous savent peut-être qui je suis. Je n'ai pas pu ne pas remarquer les bureaux vides quand je suis venu travailler ce matin et tous les cartons empilés. Naturellement, si vous souhaitez partir, c'est votre droit. Et si vous sentez au fond de vous que vous ne pouvez pas travailler avec ce gouvernement, il vaut mieux partir, en effet, sans attendre. Mais si vous vous préparez à partir parce que vous craignez que votre langue ou la couleur de votre peau ou avoir travaillé pour l'ancien président vous disqualifie pour travailler ici, alors je tiens à vous dire, n'ayez pas ce genre de crainte. What is for lay is for lay. Le passé est le passé. Nous regardons vers l'avenir maintenant. Nous avons besoin de votre aide. Nous sollicitons votre aide. Si vous choisissez de rester, vous rendrez alors un très grand service à votre pays. Tout ce que je vous demande, c'est de faire votre travail dans la mesure de vos capacités et d'y mettre tout votre cœur. Je promets de faire de même. Si nous y parvenons, notre pays deviendra un phare qui éclairera le monde.
Voilà, ça
c'est très 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 fort. Alors le film a le grand mérite de mettre en relief la personnalité de l'humaniste et du fin tacticien qu'était Mandela. Eastwood centre son propos sur son attitude magnanime, il montre le rôle de l'individu et le poids des valeurs. On voit bien l'espoir et la crainte suscités par Mandela, l'espoir du peuple noir, sa volonté parfois trop pressante de revanche, et en même temps la peur des Blancs du retour de bâton. Bah oui, il est toujours difficile de perdre des privilèges et de voir ceux que l'on craint ou que l'on considère comme des ennemis ou des êtres inférieurs et mauvais prendre le pouvoir et se livrer à des vengeances. Invictus montre bien la volonté de Mandela de dépasser tout cela, de prendre de la hauteur, de refuser la purge attendue par certains de ses partisans. Et le choix de la pédagogie par l'exemple, afin de diminuer les risques de guerre civile et de parvenir à terme à construire une réelle nation arc-en-ciel.
Alors le film évoque par moments le passé de Mandela, la visite des box à Robben Island.
Oui, Robben Island, oui. C'est superbe ça.
Voilà, elle est émouvante. Hein.
Ouais.
Et on est d'autant plus sensible à tout cela que Morgan Freeman fait plus qu'incarner Mandela admirablement. Il est Madiba.
Absolument, Madiba.
Madiba, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Oui, vous avez dit Madiba.
On peut avoir quelques réserves sur Matt Damon, par contre, dans le rôle de François Pinard, le capitaine de l'équipe de rugby, tant il n'est pas dans ses attitudes un authentique joueur de rugby.
Le moins s'en fout.
Enfin bon. Mais qu'importe, finalement, on se laisse emporter par ce tourbillon humaniste plein de bons sentiments, diront les pisse froid de service.
Alors, figurez-vous que la musique est due à Kyle Eastwood.
Ah, le
vous
piston.
Savez, le fils d'eux.
Ouais.
Hein, et c'est Johnny Clegg qui chante The Crossing.
Aussi. Ooh.
Le 6 avril, en Italie, un séisme de magnitude 6 fait plus de 270 morts dans la région des Abruzzes. Tout autre chose, le 15 du même mois, figurez-vous que la France adopte un nouveau système d'immatriculation des voitures. Et oui, et la première immatriculation, figurez-vous, inscrite sur une Mazda 6 blanche est AA001AA. Vous
connaissez le nom du propriétaire ?
Oui, c'était Jean-Marc Blanchu.
De Troyes.
Charcutier. Il était charcutier à Troyes, oui, tout à fait.
Sûr. Alors, au mois de mai, le Groenland accède à une autonomie renforcée, mais reste une province autonome du Danemark.
Ah.
Et un territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne, qu'on se le dise.
Oui, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord.
Oui, hein. Voilà.
Et le 29 juin, figurez-vous, l'homme d'affaires américain Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison pour une escroquerie d'un montant de 65 milliards de dollars, découverte après une crise financière en 2008.
Bon, pas de commentaire. On a ouvert le deuxième trimestre par une catastrophe, on la referme par une autre. Le 30 juin, un Airbus de la compagnie Yemenia s'abîme dans l'océan Indien juste avant son atterrissage aux Comores, faisant 152 morts et une seule survivante, une jeune fille de 12 ans. Et bien 13 ans après, elle témoigne.
Je me réveille dans l'eau, la nuit. Il y a un petit peu une lumière, mais c'est pas vraiment une lumière, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Et des cris de femmes. Beaucoup de cris, qui appellent à l'aide, qui pleurent. Et alors c'est bizarre parce que j'ai fait preuve d'une très grande lucidité. Il y avait des débris à côté de moi et je les ai attrapés. Et j'ai commencé à appeler à l'aide. Vraiment, j'avais perdu espoir à ce moment-là. Et j'avais posé ma tête en fait, sur le débris. Je me suis dit, on ne va plus jamais me retrouver.
Quel sentiment de culpabilité.
Ouais, ça doit être terrible. Hein. Ouais, ouais. Ça doit être absolument terrible. Ouais. Figurez-vous que le 21 octobre 2009 sort Le Ruban Blanc, un film franco-germano-italo-autrichien réalisé par l'Autrichien Michael Haneke.
Un petit village protestant du nord de l'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. Avec son instituteur, sa chorale d'enfants, son ordre social intangible autour du baron, du régisseur, du pasteur, du médecin, sa communauté de paysans, enfin, dure à la tâche, dominée par quelques figures patriarcales. Les codes sociaux sont stricts, l'éducation rigoriste. Le coup de verge se reçoit en silence, l'émotion se cache et l'amour ne se dit pas. L'instituteur se souvient, avec 50 ans de recul, des événements qui ont défrayé la chronique locale à la veille de la Première Guerre mondiale.
Le Ruban Blanc évoque Le Village des Damnés. Ce merveilleux film dont on avait parlé une fois, je me souviens, c'est un film extraordinaire que j'adore, un film extraordinaire de science-fiction britannique qui montrait l'éclosion surnaturelle d'une terrifiante colonie de petits blonds aux yeux bleus. Alors si le film cherche à deviner les sources du fascisme à travers ses enfants, qui sont les futurs adultes de l'Allemagne nazie, dont la rigueur protestante fait croître la cruauté, il suggère un monde sans amour ni innocence, perverti par la conscience d'une mort inéluctable, un monde où trop de dieux tue l'idée même du sacré, où un enfant peut vouloir se suicider, où des enfants peuvent en torturer d'autres. Alors on sort de ce film littéralement hanté, parce qu'en retraçant une époque, il distille une atmosphère de cauchemar.
Alors dans l'émission mensuelle sur le cinéma, qui s'appelait Le Vrai Monde, la chanteuse, autrice et comédienne Gilles Kaplan, invitée à parler d'un film qui a marqué sa vie, évoque Le Ruban Blanc, et surtout son rapport aux images. Alors à mon avis, en valant bien un autre. Hein.
À part le fait que ce soit une réussite plastique, c'est-à-dire que le noir et blanc est vraiment magnifique, et c'est d'une cruauté. Haneke, c'est un des spécialistes de la cruauté. Je pense pas que ce soit un homme cruel lui-même, mais je crois qu'il adore démontrer tous les mécanismes de la cruauté, quoi. Il y a des scènes qui sont insoutenables à regarder. C'est-à-dire que je l'ai pas vu en entier. J'ai arrêté. Je me suis dit, non, je peux pas aller au bout, je peux plus, c'est trop. Et alors qu'en même temps, je suis hyper admirative, et je trouve que c'est une réussite, parce que je crois qu'il aurait été très heureux si je lui ai dit, non mais je n'ai pas pu regarder au bout tellement c'est cru, et je vois bien Michael Haneke dire, j'ai réussi mon coup. Je crois que c'est ça qu'il veut, il veut vraiment créer une espèce de malaise terrible chez le spectateur, et il va tout faire pour ça, avec une beauté formelle totale, quoi. C'est un film qui s'infiltre partout et qui met très 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 mal à l'aise et qui altère, je trouve, tout le côté pur, quoi.
On peut pas mieux dire, hein.
Ah, on peut pas mieux dire, non, c'est tout à fait bien précisé, oui.
Avec une froideur inflexible, avec une précision quasi clinique, avec une cruauté tranchante et des dialogues cinglants, Haneke poursuit son examen de la violence en décortiquant ici les racines du nazisme par une démonstration implacable et saisissante.
Mais alors, que dire de l'interprétation,
allez-y,
mon cher Jean-Jacques ? Eh bien, elle est irréprochable. Oui. Ce monde rempli de mystères est incroyablement soutenu par des acteurs remarquables, et notamment les enfants. Peu de mots leur sont autorisés, mais les enfants, ou plutôt les jeunes acteurs, ont su, par une expressivité sans égale, donner beaucoup de sens à ce film.
Alors, le scénario suit un déroulement narratif chronologique accompagné d'une réalisation très classique, hein, on l'a dit, images en noir et blanc qui accentuent les contrastes, peu de musique,
ouais,
absence d'effets cinématographiques afin d'épurer le propos. Avec cette œuvre d'une grande austérité, Michael Haneke a reçu la Palme d'Or lors du Festival de Cannes de 2009.
Et c'est mérité.
Alors, peu de musique donc, sauf quand une chorale chante.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
On va pas se mentir, c'est vrai que c'est dingue. Alors, vous avez reconnu le jingle, n'est-ce pas ?
Qui, moi, oui, bien sûr.
Oui, vous l'avez reconnu, mais oui. Nos auditeurs également.
Oui, d'accord.
C'est l'intro de Ciné, Télé et Canapé. C'est une petite chronique où on va parler des films qui passent à la télé et qu'on peut regarder sur son canapé.
Dans la semaine à venir.
Dans la semaine à venir, bien sûr, en commençant par éventuellement ce soir ou demain.
Non, moi j'ai retenu jeudi.
Moi j'ai demain, si vous voulez.
Alors, allez-y.
Mercredi, le 22.
Oui, d'accord, c'est
alors,
ça, oui.
Je vous propose une soirée Bertrand Tavernier.
Ah bon ?
Grand cinéaste français, s'il en est. À 20h50, sur Ciné Plus Classique.
Oui, d'accord.
Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy.
Isabelle Huppert.
Huppert, Huppert.
Ah, Huppert. Huppert.
C'est, non, c'est une jeune fille Huppert. C'est pas, non.
Oui,
Isabelle
d'accord.
Huppert.
Oui, très bien.
Et donc, ça s'appelle ?
Eh bien, Isabelle Huppert.
Non, ça s'appelle Le juge et l'assassin.
Oui, bah, pardon, oui. Hein.
Alors, en 1893, le sergent Joseph Bouvier, réformé pour ses excès de violence, tire un coup de pistolet sur Louise Le Sueur, une femme qui refusait de l'épouser. Il retourne ensuite l'arme contre lui. Tous deux en réchappent miraculeusement, mais Bouvier garde 2 balles dans la tête et est confié à un asile de fous. Reconnu saint d'esprit par les médecins, il en sort 1 an plus tard et vagabonde sur les routes de France. Hanté par le souvenir de Louise, il tue. Éventre et viole des bergères et implore Dieu dans ses crises de mysticisme. Alors le juge Rousseau, qui est un magistrat ambitieux, cherche à l'identifier. S'il parvient à prouver qu'il n'est pas fou, il obtiendra donc sa condamnation à mort. C'est une histoire qui est inspirée de la vraie vie de Joseph Vacher à la fin du 19e siècle.
Ah, Vacher devient Bouvier alors dans le film.
Oui, c'est ça, Vacher devient Bouvier dans le film.
C'est pas le même
et
métier.
Et oui. le duo Philippe Noiret et Michel Galabru est absolument invraisemblable.
D'accord, mais vous m'avez parlé d'une soirée, donc ça c'est l'horloge.
C'est le juge et l'assassin.
Et après
et figurez-vous qu'à 22h50,
oui.
Nous avons l'horloger de Saint-Paul.
On avait, oui.
Ah, il y a du lourd quand même. Toujours avec Philippe Noiret,
toujours,
figurez-vous.
Toujours.
Et alors, et Jean Rochefort et Jacques Denis. Et à Lyon, dans le quartier Saint-Paul, Michel Descombes, un horloger, apprend avec stupéfaction que son fils est recherché par la police pour meurtre. L'enquête, dont les preuves ne manquent pas, est menée par le commissaire Guibou. L'horloger et le policier sympathisent. Au cours de leurs nombreuses conversations, Guibou le tient au courant de l'évolution des recherches concernant le jeune homme qui a fui avec sa fiancée. Devenu la proie des journalistes, l'horloger se laisse convaincre par un reporter de lancer un appel radio afin de conjurer son fils de se rendre. Alors le film est inspiré du roman de Georges Simon, l'horloger d'Everton, dont l'action se situe aux États-Unis.
D'accord.
Et figurez-vous qu'il s'agit là de la première réalisation de Bertrand Tavernier. Oui,
très
monsieur.
Bien, ouais,
avant,
parfait.
Il était
assistant.
Assistant.
Oui.
Et même avant, il était encore autre
d'accord.
chose.
Et vous savez, oui.
Et le film a été tourné intégralement à Lyon.
Oui, c'est le quartier
d'où est issu, ouais, tout à fait.
Elle habitait dans
elle habitait par là, ouais, tout
j'espère
à fait.
J'espère qu'elle n'est pas liée à l'affaire.
J'espère. On lui demandera quand elle reviendra si elle
très
revient.
Très bien, merci.
Mais je vous en prie, Jean-Jacques, ça m'a fait
alors,
plaisir.
Alors, vous voulez savoir mon choix ?
Absolument.
Eh ben, c'est le lendemain, le jeudi 23, mais c'est toujours sur Ciné Plus Classique.
On va dire le voir.
2 pour 1, je vous fais une
encore
soirée Orson Welles.
Ah, oui. Voilà.
Avec à 20h50 Le Procès, film de 62. Vous savez, c'est une adaptation du roman de Kafka.
De Kafka,
c'est
oui.
La descente aux enfers de Joseph K. Qui est arrêté d'une façon arbitraire et très, comment dire, très obscure, qu'on ne sait pas exactement pourquoi.
Oui,
ça va s'enchaîner.
On connaît
comme
pas
ça.
Les raisons. Oui.
Voilà, c'est avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Suzanne Flon, Orson Welles lui-même, Michael Lansdale. Enfin, voilà, le procès en noir et blanc, c'est magnifique.
Il y a du lourd encore.
Oui, il y a du lourd. Et à 22h45,
oui.
Le chef-d'œuvre d'Orson Welles,
oui.
Qu'il a réalisé à l'âge de 25 ans, c'est sa première réalisation comme Bertrand
ouais.
Tavernier.
On en a parlé, je crois, il n'y a pas très
oui,
longtemps.
Oui, c'est Citizen Kane, évidemment, un film de 41, le biopic du milliardaire Charles Foster Kane jusqu'à sa mort, hein, solitaire. Dans
Rosebud.
Dans ce Xanadu, dans sa propriété de Xanadu, voilà. C'est un personnage fictif, bien sûr, mais très largement inspiré par le magnat des journaux américains William Randolph Hearst, voilà, qui a connu la même fin.
Tout à fait.
Voilà, avec donc Orson Welles, Joseph Cotten, Agnès Moorehead. Bon, 2 très grands films d'Orson Welles. Alors, comme Mandy n'est pas là, vous n'avez pas un autre film à nous proposer ?
Bon, éventuellement, si vous voulez, jeudi 23.
Oui,
alors,
non,
jeudi 23.
Mais non, puisqu'ils vont regarder Citizen Kane. Et...
Bah oui, bah alors ceux qui n'aiment pas Citizen Kane ou Orson Welles.
Allez, pour ceux qui n'aiment pas.
Alors, pour ceux qui n'aiment pas, à 21h25 sur TMC, J'ai, si je vous dis Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler et Orlando Bloom, vous me dites...
Rien du tout.
Vous me dites Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, bien sûr, un film de Peter Jackson.
Très bien.
Voilà, ça, le pitch, il est fastoche. C'est un groupe d'hommes.
Oui, voilà. Bon, tout le monde connaît.
Ben voilà.
On revient à l'agenda.
Allons-y.
Au début du mois de juillet, le G8 se tient en Italie. Pour tenir compte de toutes les positions parfois contradictoires, les participants signent un savant compromis sur le réchauffement climatique. Vous savez, compromis qui sera cependant rapidement mis en cause par la Russie.
Ah, c'est étonnant ça. Ah, oui. Ah, ouais, vraiment, je suis vraiment étonné. Et le 13 juillet, figurez-vous que 3 hommes s'emparent d'un butin évalué à 15 millions d'euros dans une biche. Pardon, dans une bijouterie Cartier à Cannes. Oui. J'ai failli pouffer. Oui. Avant de s'enfuir en moto. Là, c'était pas en scooter, c'était en moto. Oui. De quoi passer une bonne fête nationale, n'est-ce pas? Et loin des flonflons du 14 juillet, la militante des droits de l'homme russe Natalia Estemirova, opposante à Vladimir Poutine, est enlevée à son domicile et assassinée. Voici un petit extrait du journal de 20h d'Antenne 2.
En Russie, ce nouveau meurtre d'une militante des droits de l'homme, Natalia Estemirova. Comme la journaliste Anna Politkovskaya, elle dénonçait les exactions en Tchétchénie, un meurtre qui suscite l'émotion et l'indignation. Gilles Rabin.
Elle était la dernière à dénoncer les exactions des autorités en Tchétchénie. Natalia Estemirova a pris le relais de son amie Anna Politkovskaya après que celle-ci ait été assassinée en 2006. Natalia a été enlevée ce matin à Grozny, embarquée de force dans une voiture par des militaires en tenue camouflée. Les amis de Natalia accusent déjà Kadyrov, l'homme fort de Tchétchénie, et le poulain de Vladimir Poutine. Le corps de Natalia Estemirova a été retrouvé en milieu d'après-midi dans une forêt en Ingouchie voisine. Dans la Russie de Poutine aujourd'hui, les assassinats sont quasi quotidiens.
Alors le 22 juillet, l'éclipse solaire la plus longue du siècle est enregistrée en Inde avec une durée de plus de 6 minutes.
Wow.
Alors, Patrick,
oui,
avis aux amateurs, on peut le dire, hein,
oui,
la prochaine éclipse solaire d'une durée aussi longue aura lieu quand? Eh bien, le 13 juin 2132.
Oh ben, j'y
serai. Si ça vous intéresse.
Le matin ou l'après-midi?
L'après-midi.
Ben, le matin, j'ai plombier, ça va.
Voilà. Pour finir, et là, on y est habitué, les manifestations contre le pouvoir militaire tournent souvent au drame. Celle du 28 septembre en Guinée ne fait pas exception. L'ONU fait état de 156 morts. Et 109 femmes violées.
Je vois pas le lien entre les morts et les viols. Moi, on peut tuer, mais on n'a pas le droit de violer. Enfin, on n'a même pas le droit de tuer, d'ailleurs.
Passons.
En cette année 2009, il y a plus de 201 millions d'entrées dans les salles françaises, soit la plus forte fréquentation enregistrée depuis 27 ans. 558 films sortent sur les écrans. Et la part des films français continuant de progresser avec 268 longs métrages.
Et comme chaque année, bah, le cinéma mondial nous propose une galerie de films à voir ou à fuir.
Oui.
Les Noces Rebelles de Sam Mendes sera en France le 21 janvier avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'est l'histoire d'un couple qui s'est forgé un idéal de vie hors norme, mais qui est rattrapé par le quotidien bien loin de ses aspirations. Film fort et puissant, servi, il faut le dire, par deux interprètes au top.
Magnifique.
Oui.
La semaine suivante sort Le bal des actrices de Mai Wen.
Oui.
Alors, une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices. Toutes les actrices. Les populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliés. Et filmant tout, avec ou sans leur accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces femmes aussi fragiles que manipulatrices. Quelques jours avant, était sorti Che, de Steven Soderbergh, avec Benicio del Toro, qui est un film en deux parties.
Sur Che Guevara.
Sur Che Guevara, bien sûr.
Le cinéma en 2009 nous laisse quelques pépites incontournables, on vient d'en citer quelques-unes, mais nous donne également quelques films dont on peut se passer.
Oui.
Bon, alors moi, je vous citerai, par exemple, c'est à mon avis personnel, Coco, par Gad Elmaleh, qui a fait mieux depuis, je pense.
Oui.
Voilà.
Oui,
et vous, Patrick?
Ah ben, moi, j'ai écouté, j'en ai au moins deux, trois même. J'ai Halloween 2. Alors, figurez-vous que ça a la particularité d'être réalisé par un type qui s'appelle Rob Zombie.
Non.
Je vous assure. Et ça ne s'invente pas. Non. Alors, nous avons également pour les inconditionnels du genre Saw 6.
Qu'est-ce que vous dites?
Rien que Saw 6. C'est le sixième opus de
Saw.
Saw.
Oui.
Et rien que le titre me donne envie de rire.
Le
missionnaire, ne nous laisse pas en reste dans le genre comique lourdingue. Bon, il faut quand même dire que c'est Jean-Marie Bigard qui est au scénario et en acteur principal.
Oui, alors. Bon, oui, vous avez raison. Bon. Et revenons à des choses plus sérieuses, tiens. En juillet sort Là-haut, film d'animation poétique et tendre, dirigé par Pete Docter et Bob Peterson. Alors après, on a Avatar de James Cameron, bien sûr, qui sort en décembre. Eh oui, juste à temps pour les congés de Noël, n'est-ce pas, les vacances. Le film sera l'un des plus rentables de l'histoire du cinéma avec, asseyez-vous.
Je suis assis.
2,9 milliards de dollars de recettes. Ça laisse rêveur,
ça
non?
Ça me laisse totalement pantois.
Ah, Nicolas, à la régie, vient de s'écrouler par
oui,
terre.
Ça, oui. Relevez-vous, Nicolas, relevez-vous. Et Jacques Audiard sort Un prophète avec Nils Arestrup et Tahar Rahim, qui remportera le César du meilleur acteur, pour un film qui remportera 8 autres prix, dont oui. celui du meilleur film. Toujours au chapitre des récompenses, Slumdog Millionaire remportera l'Oscar du meilleur film et Danny Boyle celui du meilleur réalisateur.
Bravo.
Et on ne peut passer sous silence le sixième volet de la saga du sorcier à lunettes.
Oui.
Hein? Harry Potter et le prince de sang mêlé qui, avec un total de 934 millions de dollars de recettes, eh ben, ça le place au deuxième rang des plus gros succès de l'année 2009, derrière, ben, vous savez
Avatar.
Qui, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, dans d'autres registres, alors on a La Route,
oh là là là
adapté
là là.
Du formidable roman de Cormac
oh
McCarthy,
là 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 là.
Avec Viggo Mortensen.
Dieu.
On a Sherlock Holmes
oui.
de Guy Ritchie. On a Harvey Milk
oui.
de Gus Van Sant, avec Sean Penn, qui vient clore ce petit florilège. J'en prends en citer d'autres, bien sûr.
Oui, on a plein.
Et dites-donc, Patrick, la semaine dernière, nous avons abordé les séries télé, vous a rappelé.
Bon, ben, j'y étais.
Eh bien, le 13 janvier 2009, décédé l'acteur américain Patrick McGoohan. Vous savez, c'était le premier rôle de la série Le Prisonnier.
Ah oui, celui qui n'était pas un numéro, c'est ça?
Rappelez-vous.
Oui.
Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous?
Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements.
Vous n'en aurez pas.
De gré ou de force, vous parlerez.
Qui êtes-vous?
Je suis le nouveau numéro 2.
Qui est le numéro 1?
Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro! Je suis un homme libre!
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Eh bien, sur 91.3, O2 Radio, bien entendu.
Bon, on ne va pas quitter le rayon des décès, n'est-ce pas?
Bah non.
Le 14 mars, décédé Alain Bachung,
ah.
auteur de 12 albums studio et détenteur de 13 victoires de la musique. On va le retrouver là dans Oser Joséphine.
Dans quoi?
Oser Joséphine.
Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le sourire, usez l'usurier. Soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez, Joséphine. Ose, ose, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Le 7 décembre 2009, des représentants de 193 pays sont réunis à Copenhague pour participer à une conférence internationale sur le climat. Elle est marquée par des négociations se soldant par une déclaration d'intention sensible, contraignante, ce qui suscite une certaine déception.
Une de plus.
Oui, bien sûr.
Bon, allez, il est temps de refermer ce calendrier de l'année 2009 et nous allons le faire avec la rubrique Nécrologie, je suis
des
désolé.
Profondis.
Parce qu'en 2009, il y a beaucoup de personnalités fortes qui disparaissent. À commencer par le folk John Martin, la danseuse Pina Bausch, ouais. L'artiste multicarte Michael Jackson.
Mais il n'est pas mort, il est sur une
île. Le danseur Merce Cunningham, ainsi que l'homme de théâtre Roger Planchon, ouais. Le romancier Maurice Druon, l'anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss et la femme de radio Masha Béranger. Ah, oui. Vous savez, la diva des insomniaques, ouais. Des noctambules, des sans-sommeil. À la voix sans pareil.
Eh bien, bonsoir, Masha Béranger avec vous jusqu'à 2h du matin. Sachez que je ne vous ai aimé follement, que je vous aime intensément et que je vous aimerai encore et encore et encore. Ailleurs, 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 ailleurs. Je vous dis au revoir. À très vite, bientôt. Ailleurs. Et pour la dernière fois, je vous annonce qu'il est 1h du matin et que vous écoutez France Inter.
La voix...
Une voix extraordinaire.
Oui, mais elle reflète les problèmes qu'elle avait.
Oui, aussi, un petit peu. Mais bon, c'était une voix extraordinairement à la fois grave, chaude et sensuelle.
J'aimerais qu'on parle du 20 mai 2009.
Alors, figurez-vous, vous savez ce qui se passe le 20 mai 2009 ?
Non, vous allez nous le dire.
Je vais vous le dire. Quentin Tarantino présente à Cannes son film Inglourious Basterds. Alors, la séquence inaugurale donne le ton du film. L'attitude courtoise et avenante du colonel SS Hans Landa pourrait laisser croire à un doux moment de paix dans une guerre horrible. Tout est mesuré, pas un mot plus haut que l'autre. Il se délecte d'ailleurs du bon lait de la ferme. Le père montre malgré tout une tension de tous les instants et pour cause. La caméra traverse le plancher et on découvre une famille, juive sans aucun doute, terrée dans la cave. De celle-ci, on entend la conversation qui tourne bien évidemment sur les personnes qui cachent des juifs. Tout est calme, jusqu'au moment où la mitraille traverse le plancher et tue les occupants de la cave. Seule, Shoshana parvient à s'échapper.
Alors, on va être d'accord, Tarantino n'a jamais fait dans la dentelle.
On est d'accord.
Il est explosif. La violence lui sert néanmoins pour illustrer son propos. Alors là, c'est la guerre, et on n'a jamais vu de guerre se faire avec de bons sentiments. Enfin,
bah non.
Il faut tuer, et tuer encore. Il faut éradiquer l'ennemi.
Alors, on peut définir le style de Tarantino en 6 phrases.
Non.
Hommage au cinéma.
Oui.
Violence extrême.
Oui.
Humour sympathique.
Oui.
Personnage bien stéréotypé. Fiction qui se rapproche.
Développé plutôt, je pense.
Oui, oui. J'ai dit quoi ? Stéréotypé peut-être.
Oui, oui, oui.
Alors, personnage bien développé, ça fait 2 points pour moi.
Oui.
Fiction qui se rapproche de notre monde réel et dialogue qui peut diviser le public. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un homme qui aime le cinéma et ses films font des clins d'œil à des œuvres, anciennes ou étrangères, dont il s'est inspiré tout en y mettant sa propre patte. Bande-annonce.
Garde à vous ! À vos rangs fixes !
Bien, je me présente, lieutenant Aldo Rain. Et j'ai besoin de 8 soldats. On va se pointer en France en tenue civile. On n'aura qu'un objectif à atteindre et un seul. Tuer du nazi.
À vos ordres, lieutenant !
Les membres du Parti National Socialiste ont conquis l'Europe par le meurtre, la torture, les menaces et la terreur. Nous allons leur rendre la monnaie de leurs pièces. Nous allons massacrer les soldats allemands. C'est par notre cruauté qu'ils vont nous connaître. Ils auront les preuves de notre cruauté quand ils trouveront les corps mutilés, démembrés, éventrés de leurs frères après notre passage. Les Allemands ne pourront pas s'empêcher de penser à la barbarie, aux atrocités que nous leur infligerons. Ils vont goûter à nos poings, aux talons de nos bottes et au fil de nos larmes. Les Allemands auront la nausée. Les Allemands vont nous entendre arriver. Les Allemands seront terrorisés. Les nazis n'ont aucune humanité! Il faut le détruire! Chaque soldat de mon commando devra me rapporter 100 scalps. Et j'entends avoir mes scalps. Que c'est clair?
Oui, lieutenant!
paf.
Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on règle les problèmes.
Non, 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 mais c'était la façon dont Tarantino pouvait le penser.
Tout à fait, Patrick.
Même avec le sujet sensible et grave d'Inglourious Bastard, il arrive à parsemer l'intrigue de scènes très réalistes et violentes qui ne sont pas gratuites, mais indispensables pour l'efficacité du film. Alors bien sûr, le réalisateur n'est pas à tendre dans sa façon d'aborder les moments les plus durs de ses œuvres, mais il se dégage tellement d'efficacité que l'exagération devient utile pour nous procurer un réel plaisir et nous faire vibrer.
Et de plus, il nous concocte ici une histoire intelligente, poignante et plein de rebondissements. Les personnages sont bien dépeints, bien analysés pour nous embarquer dans un tourbillon frénétique de férocité rendue crédible par le contexte de cette terrible période, n'est-ce pas ?
Alors moi, j'ai été subjugué par Christoph Waltz, qui joue dans le rôle effrayant du commandant Hans Landa. Il nous souffle le chaud et le froid tout au long du film avec ses bonnes manières, son ton caressant et sa brutalité subite qui l'entraîne dans des crimes atroces afin de satisfaire sa jouissance de tuer des juifs pour défendre ardemment les conceptions de son Führer. Oui. Il domine cette œuvre en l'éclaboussant de sang, de larmes et de son talent. Et face à lui se dresse le lieutenant Aldo, incarné par Brad Pitt, qui signalait une performance tout à fait honnête, au même titre d'ailleurs que Mélanie Laurent, qui est très combative et émouvante dans le rôle de Shoshana Dreyfus.
Vous me parliez de Christoph Waltz, ça me fait penser à Hannah Arendt qui disait effectivement que les nazis étaient des êtres humains aussi.
Oui, aussi, oui.
On a oublié. Alors, le film a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2009, pour Christoph Waltz, mais aussi l'Oscar, le Golden Globe et le British Academy Film Award du meilleur acteur dans un second rôle, pour ne citer que les prix les plus prestigieux, n'est-ce pas, Patrick ?
Oui, tout à fait, Jean-Jacques. Alors, le budget initial de 70 millions de dollars a permis d'exploser les compteurs avec un total de plus de 361 millions de dollars de recettes.
Ah, oui.
Et, et la bande originale reprend un certain nombre de morceaux d'autres films.
Comme dans...
C'est le cas avec The Green Leaves of Summer, signé de Dimitri Tiomkin, et tiré du film Alamo, réalisé par John Wayne en 1960.
Oh,
Oh, c'est beau.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça.
Alors, Patrick, vous nous aviez présenté la séquence ciné-télé canapé.
Tout à fait, celle où on voit les films sur notre canapé.
Voilà. Il est temps maintenant de passer à la séquence les sorties demain, puisque demain, mercredi, grand nombre de films vont sortir dans les salles de cinéma en France.
C'est vrai, c'est le jour des sorties.
Et vous en avez choisi un?
Alors, j'en ai choisi un ou deux, voilà.
Alors, donnez-nous votre premier.
Alors, mon premier choix, c'est un film algérien de Afsia Herzi.
D'accord.
Avec Nadia Meliti, Jimin Park, Abida Ben Mohamed. Ça s'appelle « La petite dernière », figurez-vous. Fatima est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre tout un nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Fatima se met alors à se questionner sur son identité, comment concilier sa foi et ses désirs naissants. Alors, le film pose la question de l'acceptation de soi dans une société qui est prompte à poser ses limites et à imposer ses règles. Ça me fait un peu penser à un roman de Tahar Ben Jelloun qui s'appelle « Les yeux baissés » dont nous parlions tout à l'heure en aparté, qui est un roman absolument extraordinaire sur l'intégration d'une jeune fille dans un monde qui, culturellement, n'est pas le sien au départ, mais qui le devient. À noter quand même que Nadia Meliti, qui joue donc Fatima, a reçu le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes.
Ah bah dis donc.
Quand même, c'est pas rien.
Oui, oui, tout à fait.
À vous.
Moi, je vous propose un film qui parle de Bruce Springsteen,
ah oui,
le boss. Et c'est, le film s'intitule « Springsteen, Deliver Me From Nowhere ». Il est réalisé par Scott Cooper. Alors, on se replace dans l'année où Springsteen sort son double album « The River », un succès phénoménal, une des ventes qui dépasse tout dans le monde entier.
Mais c'est un artiste fabuleux.
Une tournée extraordinaire. Et alors, à l'issue de tout ça, Springsteen, il est un peu, notre ami Bruce, il est un peu déstabilisé, il a besoin de calme pour retrouver un peu qui il est. Alors, il va s'enfermer dans sa chambre, il va s'enfermer avec un magnétophone 4 pistes, et il va enregistrer un album acoustique qui va s'intituler Nebraska.
C'est à
l'opposé de ce qu'on pouvait attendre de lui, quoi. Et donc, on suit la genèse de cet album essentiel sur lequel il assure d'ailleurs la totalité des instruments. C'est lui qui joue de
D'accord.
tous les instruments acoustiques. Voilà. Donc, il s'agit d'une adaptation d'un ouvrage de Warren Zanes qui racontait l'enregistrement de l'album Nebraska. Donc, pour les amateurs de musique...
C'est le boss, quoi.
Oui, c'est le boss.
Alors, quand même, quoi.
Signalons que c'est un acteur pas trop connu qui s'appelle Jeremy Allen White qui interprète Bruce Springsteen dans le film.
Tout à fait. J'ai vu quelques extraits, ça n'a pas l'air mal. Hein.
Oui, ça donne envie de racheter des disques.
Ça donne envie d'écouter Bruce Springsteen, absolument.
Et notamment l'album Nebraska. Et
surtout l'album Nebraska.
Voilà, alors comme on a un peu de temps, vous en avez un deuxième.
J'en ai un petit deuxième, vite fait. Alors très vite fait, c'est la dernière action du match, donc on va y aller. Et je vais vous parler éventuellement, si vous le voulez bien, de Kaamelott quand même, dont on ne peut pas... N'ignorez la sortie, le deuxième opus de la série éponyme de Alexandre Astier, n'est-ce pas?
Oui.
Avec toute sa galerie de portraits. On a du Chabat, on a du Virginie Ledoyen, on a tout le monde. Voilà, c'est un peu déjanté. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans la série. J'ai moins aimé le premier opus.
Oui.
Là, le deuxième a l'air un petit peu plus, un peu différent dans la mesure où il s'appuie pas sur la série qui a été diffusée. Mais moi, ça me plaît bien. Enfin, j'aime bien Astier.
D'accord.
Il est génial, ce mec.
Très bien.
Voilà. Et vous avez autre chose?
Non, ce sera tout, moi.
Ce sera tout.
Je suis limité à ça.
C'est tout. Vous avez
oui,
que ça.
Oui, oui, oui.
Tout bon,
à
vous
fait.
Vous êtes tout sec aujourd'hui.
Oui, oui.
Et ben voilà.
Bon.
Voilà. Ainsi naissant, c'est fini.
Ah ben voilà. Oui.
Enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Oui, ben comme d'habitude.
Alors, vous pouvez dès à présent enfiler vos bottes, empoigner un panier et aller en forêt avec un gilet jaune, surtout le gilet jaune, pour ramasser des chanterelles et autres champignons et pourquoi pas retrouver Anne-Lise. Oh, hey, Anne-Lise, où êtes-vous? Le tout en écoutant dans votre casque l'épisode du jour ainsi que tous les autres en podcast, donc que vous trouverez sur le site d'Eau de Radio à la rubrique Cinescent.
Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux.
Bah oui.
Bon, alors nous nous retrouverons en direct pour l'épisode numéro 6. Attention, le mardi 4 novembre.
Oui.
Oui, parce que Cinescent fait relâche mardi prochain pour cause de vacances.
Oui, on sera sur les pistes de ski.
Oui.
Mais ce sera toujours sur O2 Radio.
Toujours.
Ah oui, 91.3, bien entendu.
Oui.
Et en attendant, figurez-vous qu'on va se quitter avec la perle musicale du jour, délichée par vous, Jean-Jacques.
Bon, ben, on va rester en 2009. Bonne idée. Avec la chanson à venir, nous ouvrons la rubrique « Chanson triste qui met la pêche ».
Ah,
voilà.
D'accord.
Willy Lamothe, c'est le pionnier de la musique western québécoise. Et oui, ça existe. Et quelqu'un qui a le cœur brisé. Et il a de quoi. « Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur » chante-t-il. Pourtant, l'air est assez jovial, vous allez voir. Ah oui, finalement, résilience quand tu nous tiens. Hein.
Allez, nous, on se retrouve donc le 4 novembre. Ouais. Et en attendant,
bon vent à tous.
Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur ? Moi qui ne voulais que ton bonheur. J'ai brisé, oui, pour toi, ma chérie, mon honneur et presque toute ma vie. À présent, tu refuses mes caresses. Je t'ai donné le meilleur de ma jeunesse. Je maudis le baiser qui m'a fait succomber, puisqu'il me fait tant pleurer.
Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur ? Moi qui ne voulais que ton bonheur. J'ai brisé, oui, pour toi, ma chérie, mon bonheur est presque toute ma vie. À présent, tu refuses mes caresses. Je t'ai donné le meilleur de ma jeunesse. Je maudis le baiser qui m'a fait succomber, puisqu'il me fait tant pleurer. Moi qui ne voulais que ton bonheur. J'ai brisé, oui, pour toi, ma chérie, mon honneur est presque toute ma vie. À présent, tu refuses mes caresses. Je t'ai donné le meilleur de ma jeunesse. Je maudis le baiser qui m'a fait succomber, puisqu'il me fait tant pleurer.